gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM avec un grand moment que nous allons vivre ensemble, à savoir l'examen final de nos stagiaires. Découverte 3e, Mathias et Elliot, respectivement, le collège Victor Duruy et celui de l'UB Barbon, Mont-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, Represent. Avant de les accueillir et de découvrir le reportage, quelques mots avec vous, Margot, de retour, quel plaisir.
On se revoit.
Oui, tout à fait.
Okay.
On alterne. Aujourd'hui, c'est dans le vous. Vous, Margot, parce qu'il se trouve que Elliot et Mathias, vous les avez... Oula, là, il y a le rafale qui décolle. Je vais vite vous donner la parole. Vous êtes en train, Margot, de suivre quelques formations comme ça qui nous permettent de faire quelques ateliers radio. Présentez-nous, dites-nous quelques mots sur ça, Margot.
Oui, je les ai suivis l'année dernière. Ça y est, c'est fini. Vous avez voulu répondre peut-être.
J'entends pas le temps passer.
Autour de l'éducation aux médias et de l'animation d'ateliers radiophoniques. Et donc effectivement, pour les stagiaires qui viennent, c'est chouette de pouvoir mettre en place. C'est chouette. Moi en tout cas, ça me plaît. Il faut voir avec eux et elles aussi si c'est réciproque. Mais visiblement, depuis qu'on le fait, depuis qu'on met en place ces petits ateliers et ces petits temps de préparation. Et d'initiation à la pratique radiophonique, eh bien, les résultats sont plutôt concluants. Je pense notamment à ce que Zoé avait produit lors de son passage en fin d'année 2021. Et puis, on a vu ce que Tom a fait mercredi aussi au rugby.
Ah, la rencontre avec Yoana où ça se passe, c'était vachement bien. Et c'est donc l'initiation avec Margot. Quoi,
tout ça, tout en fait. Hein.
Et ça nous permet aussi, avec Radio MDM, de suivre avec vous, Margot, d'autres ateliers. Et comme ça fait partie donc, des spécificités désormais de Radio MDM. C'est pour ça qu'on voulait quand même ouvrir cette parenthèse.
C'est ça.
Okay. Ben, merci, Margot.
Et donc,
vous allez écouter ce que donc, Mathias et Elliot vont nous proposer. Ouais. En commençant par Elliot. Bonjour, Elliot.
Bonjour.
Attendez, hop là, le micro, ça c'est moi qui en technique merdois, il faut bien le dire. Elliot, donc.
Donc, bonjour, Jeannot. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. J'ai discuté avec une personne assez spéciale qui a-t-elle gagné le titre de championne du monde junior 2015 de surf, qui déjà est un sport difficile par le fait de dompter les vagues des fois grandes. Et je lui ai posé quelques questions, une personne qui a beaucoup voyagé et a vécu quelques aventures passionnantes et des compétitions complexes. Mais j'ai eu que quelques minutes pour parler d'elle, je vous laisse découvrir.
Bonjour, ici Elliot Godeby, vous êtes sur Radio MDM, la moins pénible des radios. Aujourd'hui, nous nous retrouvons et interrogeons Tessa Tyson, championne du monde junior de surf 2015, née le 25 janvier 1997 aux Pays-Bas. Nous la retrouvons donc par téléphone, ne se trouvant pas actuellement en France. Bonjour Tessa.
Bonjour à tous.
Nous allons discuter tout d'abord de vos débuts. Quand et où avez-vous commencé le surf ?
Alors, j'ai commencé aux Caraïbes, en Guadeloupe. J'ai eu la chance de grandir là-bas.
Et donc, le surf, typique sport de plage particulièrement venu d'Hawaï. Les premières traces du surf hawaïen remontent à 1769 et en Australie en 1910, soit des périodes différentes pour chaque pays, si puis-je dire. Ce serait James Cook, venu d'Hawaï, qui l'aurait véritablement inventé avec un journal de bord décrivant aurait aperçu une certaine personne sur une planche en bois appelée Papa et Nalu. Et donc James Cook aurait donc eu cette idée. Revenons vers vous Tessa, vous qui avez donc fait moult voyages et aventures durant toute votre carrière, avez également affronté des épreuves des fois difficiles, des compétitions rudes. Vous avez perdu, vous avez gagné et cela a fait de vous une personne courageuse avec caractère qui s'accompagne en sauce. Vous vous êtes sûrement blessé, ce qui vous a sûrement au final renforcé. Comment avez-vous fait pour devenir un professionnel du surf ?
Alors, c'est à travers les voyages surtout. On se forge, on apprend à ouvrir son esprit et à apprendre à travers les différentes cultures, les différents paysages, les différentes langues, mais aussi à travers le surf, c'est une passion. Donc derrière, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de hauts et de bas, comme vous l'avez dit. Donc effectivement, ouais, c'est une aventure qui se fait petit à petit, c'est un long chemin. Et je suis très fière d'en arriver jusque-là et c'est pas fini. J'ai d'autres objectifs pour les prochaines années, donc à suivre.
Vous avez voyagé, oui, dans toutes sortes de pays, affronté des vagues différentes à chaque fois, dans l'eau chaude et froide et surtout salée de la mer, qui serait donc votre élément à vous, l'eau. En 2015, à Oceanside, Californie, Tessa ne laisse pas passer sa chance et gagne avec mérite le titre de championne du monde junior de surf chez les filles. Incroyable nouvelle pour elle et son entourage. Quel a été votre sentiment à ce moment de victoire ?
Le sentiment qu'on pense, le tout premier, c'est être fier forcément. Car comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'entraînement derrière tout ça. Et beaucoup de bas, beaucoup de défaites et peu de victoires. Donc quand on en a, il faut vraiment décroquer à plein de temps et vraiment savoir profiter de l'instant présent. Et ouais, j'étais très contente, très très contente et soulagée d'enfin avoir un titre tel que championne du monde. C'est une fierté, oui.
Oui, c'est incroyable, c'est sûr. Vous qui faites depuis si longtemps ce sport, qui vous décrit et qui vous accompagne durant toutes ces années, qui vous a accompagné, ma dernière question est, auriez-vous des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du surf justement ?
Il suffit d'apprendre avec moi. Non, ouais. Je rigole. Apprendre le surf, c'est assez compliqué car il y a beaucoup d'informations en si peu de temps. Une vague, elle déferle et elle casse très vite, donc il faut vraiment avoir un bon instructeur, c'est mes recommandations, et pas lâcher prise. Il faut vraiment essayer de continuer à fond, parce que les premières fois, c'est pas souvent facile, mais une fois qu'on a un certain niveau, avec les bonnes bases, c'est là où est-ce que le plaisir est optimal.
Oui, c'est sûr. C'est donc effectivement des bons conseils pour bien commencer, si jamais... N'hésitez pas à essayer, même si vous avez peur ou quoi que ce soit. Et donc, avec Tessa qui nous amène des messages de courage. Merci beaucoup Tessa. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur MDM. C'était Elliot Godeby sur la radio MDM avec l'histoire de Tessa Tyson à la revoyure.
Et le pote Elliot, il arrive là du collège Lubé Barbon, il vient passer 4-5 jours sur Radio MDM et puis il te m'invite, il te me convoque, une championne du monde junior de surf, voilà, en toute humilité, en toute simplicité. Voilà. Margot ?
Oui. Non, c'est impressionnant, c'était en plus, surtout que là, il a fait tout seul.
C'est
en
ce
fait.
Que j'allais dire aussi.
Là, c'était le premier, l'interview en direct avec Howard Bennett, l'autre jour, on l'avait préparé ensemble, mais là on... Deux jours, innovation totale, prise d'initiative, enregistrement maison.
Tout seul, comme ça, comme un grand. Avec
montage aussi avec PAF quand même.
Montage et même mixage, puisqu'il a même utilisé des logiciels dont je ne sais pas me servir. Voilà. Il y en a d'ailleurs, il faudrait bien que je m'y mette. Mais,
pourra vous former.
Voilà, tu me montreras, Elliot.
Oui. Ouais.
Alors, c'était juste le vouvoiement pour l'interview ? Tu vous vois, t'es ça, ta sœur ?
Non, c'est pour l'interview.
C'est pour l'interview ? D'accord. Ouais.
Okay. Quand même.
Ok. Et donc Tessa, elle était à Saint-Barthélemy, c'est ça ?
Oui.
Actuellement, elle est en préparation de compétition.
Elle a beaucoup de travail en ce moment. Non, elle n'a pas spécialement de compétition, mais ça viendra vite.
Et elle vit à Saint-Barth alors ?
En ce moment, elle est à Saint-Barth, mais sinon, en fait, son milieu de vie est le monde en fait.
Ouais.
Elle vit
c'est
partout
quoi. C'est l'eau. Elle habite sur une île. Elle habite dès qu'elle peut. Elle va sous l'eau dès qu'elle peut.
Voilà.
Elle vient de temps en temps sur la côte landaise pour.
Oui, ouais. Quand même, oui.
Parce que c'est un sacré joli spot quand même le golfe de Gascogne. Hein.
Oui.
Hein. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Elliot. Tu restes avec nous pour accompagner l'ami Mathias, qui lui donc va représenter, parce que c'est de ça dont il s'agit, le collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan. Salut Mathias.
Bonjour.
Ça va Mathias ?
Ça va.
Bon, ça y est, c'est le moment, parce qu'il y a eu quelques reports dans ton reportage. Mercredi, c'était pas possible. Enfin, bref, mais chapeau et béréba à toi. Tu t'es aussi maintenu le cap pour nous permettre donc d'aller faire un petit tour sur les cours de tennis de l'Étoile Sportive Montoise.
Oui, tout à fait.
Alors, le reportage de Mathias sur les ondes de Radio MDM.
Durant ce reportage, nous allons parler du tennis, de l'actualité dégagée, de son histoire, mais également plus précisément de l'Étoile Sportive Montoise. Au cours de ce reportage, nous diffuserons une interview sur l'un des coachs de ce club qui nous expliquera d'intéressantes informations sur ce club montois. Commençons sur l'histoire du tennis. Le tennis est le deuxième sport le plus joué en France, pourtant il a été créé par des Anglais. Le tennis est l'un des nombreux sports inspirés du jeu de paume, qui est un sport qui date du XVe siècle, alors que la naissance du tennis a lieu entre 1850 et 1870. C'est le major Harry Game qui a commencé à y jouer, en 1858, d'une façon assez similaire au tennis actuel, avec une sorte de cours de tennis dessiné sur le gazon de sa propriété. D'autres personnes vont améliorer la version du jeu, puis c'est 11 ans plus tard que le premier club du tennis prend forme dans une ville d'Angleterre nommée Leamington. Maintenant, avançons légèrement dans le temps pour parler de l'histoire de l'étoile sportive antoise. Cette institution sportive est créée aux alentours des années 1893-1895, baptisée Patronage Saint-Joseph en 1901, puis renommée sous le nom d'étoile sportive du Patronage Saint-Joseph. Son nom étoile est inspiré du nom de l'auberge nommée ainsi, qui se trouvait à l'endroit où les écoles étaient construites. L'institution sera encore renommée après la Seconde Guerre mondiale, le 21 avril 1952, où l'on donne le nom que l'on connaît encore aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 18 janvier, à 16h. Je me trouve dans l'établissement du club du tennis de l'étoile sportive montoise, en compagnie de Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy.
Bonjour.
Alors, Jean-Guy, pouvez-vous présenter ce que vous faites dans ce club ?
Alors moi je suis salarié de l'Omnisport de l'étoile montoise. Je suis le salarié du club de tennis et j'assure la fonction de permanent club. Je fais un peu de secrétariat et j'assure les cours collectifs du club.
Depuis quand le tennis vous intéresse ?
Oh, moi ça fait une bonne quarantaine d'années. J'avais aux alentours de 18 ans. Je sortais du foot et le tennis était en plein essor. Donc je m'y suis naturellement dirigé parce que j'aimais les sports de raquettes.
Comment se déroule un entraînement en général dans le cadre de l'apprentissage du tennis ?
Une séance se divise en trois parties. Il faut travailler un petit peu la technique du bas, c'est-à-dire le placement, essentiellement ce qui se passe au niveau des jambes. La technique du haut, c'est-à-dire la gestuelle. Et il faut un peu de panier pour que ce soit ludique, pour qu'il y ait du physique.
Pensez-vous qu'il est compliqué d'apprendre ce sport ?
Alors oui, c'est compliqué parce qu'il vaut mieux l'apprendre très jeune. C'est très technique. La technique est difficile. Les bases ne sont pas faciles à apprendre pour un adulte. Donc oui, il vaut mieux apprendre jeune. Sinon, c'est vite compliqué quand on est adulte et qu'on commence.
Passons maintenant à des questions sur la pratique pour les nombreux intéressés à ce sport. Comment fonctionne ce système de points et de marquage au tennis ? D'où cela vient ?
Alors, ça remonte à loin, j'ai pas toutes les infos, mais je crois que c'était vers le 16e siècle, c'était le jeu de paume, ça s'appelait, et en fait, il y avait un filet, deux adversaires, et chaque fois qu'un des adversaires gagnait un point, il avançait de 15 pieds, ensuite c'était 30 pieds pour le deuxième point, et 40 pieds le troisième, donc on se rapprochait du filet petit à petit. Et c'est de là qu'on a gardé ce système de points, sauf que nous, maintenant, quand on dit 15, c'est 1 point, 32 points et 43 points.
Pouvez-vous nous parler d'une action qui, selon vous, a marqué l'histoire du tennis ?
Alors bon, il y en a évidemment, en choisir une, c'est difficile, mais je pense que ce qui a marqué l'histoire du tennis, pour moi, c'est la retransmission à la télévision du tennis et du sport en général. C'est ce qui a amené les gens à aimer le tennis, parce qu'ils pouvaient le voir en direct. Moi, vers le milieu des années 70, j'écoutais le tennis à la radio. Je ne pouvais pas le voir à la télévision, donc ça a vraiment été un déclencheur pour populariser ce sport.
On va maintenant s'intéresser à une spécificité du club avec Jean-Guy. Comment se déroulent les tournois organisés par le club ?
Alors les gens s'inscrivent en ligne sur un site de la fédération, donc on prend toutes les inscriptions, ils payent en ligne aussi. On fait des tableaux en fonction des catégories d'âge et de classement, et après on convoque les gens qui auront la plupart du temps un match par jour à faire pendant la quinzaine du tournoi.
D'accord. Merci Jean-Guy.
Merci Mathias.
En ce moment, il est question de tournoi dans l'activité du club et je participe dimanche à un match en double dans ce cadre, ce qui me permet de vous parler plus largement de l'actu du tennis. En ce moment, tout tourne autour de l'Open d'Australie, mais le scoop qui fait aujourd'hui le plus parler, c'est l'expulsion de Djokovic. Récemment, le numéro 1 mondial est interdit de territoire australien pendant 3 ans face au refus de son visa pour la seconde fois. Ainsi, il est renvoyé de ce grand chelem et le tennisman serbe n'en reste pas indifférent. Il était extrêmement déçu de la décision de la Cour et a annoncé qu'il allait coopérer avec les autorités compétentes en ce qui concernait son départ du pays. Il ferait donc comprendre qu'il ne se laissera pas faire et qu'il compte bien revenir en Australie l'année prochaine. Même la ministre australienne Karen Andrew expliquerait qu'il y aurait quelques raisons impérieuses qui finalement l'autoriseraient à revenir dans ce continent en 2025. Dans l'actu, il y a aussi la mystérieuse affaire concernant Peng Shuai, la joueuse chinoise qui aurait inhabituellement disparu après avoir accusé un grand dirigeant politique de son pays de l'avoir agressée sexuellement via une publication sur Weibo. Vous demandez sûrement ce qu'est Weibo, eh bien c'est un peu le Twitter chinois. Cette publication alarmante a été rapidement supprimée, mais a tout de même atteint un autre réseau social bien plus connu, qui est tout simplement Twitter. Puis après cela, aucune nouvelle de la tenniswoman pendant 2 semaines et beaucoup d'inquiétudes de la part de certains grands noms du tennis et de l'association des joueuses de tennis, la WTA. Finalement, en novembre, est publié sur Twitter un message qui serait attribué à Peng Shuai qu'elle aurait envoyé à la direction de la WTA. Contre toute attente, cela ne résout pas l'affaire à cause de son aspect très suspect. En effet, d'après le contenu de ce message, la grande tenniswoman dirait que les propos la concernant sur le site officiel de la WTA ne sont pas confirmés ou vérifiés par elle-même et que cela a été réalisé sans son autorisation. Ensuite, elle confirme que les infos sur l'accusation de cette agression sont fausses. Tout cela est bien curieux.
Bien curieux, effectivement, mon cher Mathias. Merci pour ce petit point actus sur la planète internationale. Tu suis un petit peu l'Open d'Australie, là, depuis qu'il a débuté, ou pas plus que ça?
Oui, je suis un peu, oui.
Et alors, par contre, tu aurais quand même pu me dire que tu jouais en double dimanche, quoi, du côté des cours de l'Étoile Sportive Montos, parce que dans mon journal des sports, j'en aurais fait le premier titre. À quelle heure tu joues? Ça dépend.
Oh, je sais pas trop, vers 14h dimanche.
Classé, Mathias? Forcément, classement oui. ATP. Non, pas ATP encore, mais classement tout court.
Oui.
Bon, et le tennis, c'est ton kiff?
Ouais.
Ok, plutôt offensif, plutôt défensif, plutôt quoi, Mathias?
Oh, je sais pas trop.
Tu sais pas trop. Bon. Mais non, je suis à l'espace Mitterrand, moi, dimanche, Margot, pour la rencontre entre Basketland et Lyon-Asvel. Et d'ailleurs, 05, 58, 46, 46, 46, on a des petites plaçounettes à vous offrir pour cette rencontre. Pour aller voir jouer Mathias, c'est gratos, on peut rentrer comme ça?
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, puisque tu parlais de Djoko, j'ai cru comprendre qu'il avait en parallèle monté une petite société où il cherchait un truc vaccin, un petit truc comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur, c'est trop tard, j'ai relayé la rumeur. Ouais, Djokovic, il paraît qu'il il a investi dans des...
Dans la recherche.
Voilà,
diantre.
Ouais. Et heureusement, Marco, vous êtes là pour éclairer le propos parce que je devenais un petit peu brumeux. Quoi. Hein, ça devenait difficile. En tout cas, grand merci, Mathias. Mathias.
Non, mais de rien.
Grand merci, Elliot. Pardon, je t'ai pas mis le micro encore une fois. Moi, il faut que je fasse un stage technique quand même, hein, avec Nico. Hein, il va me montrer tout ça. C'était un vrai plaisir que de passer ces moments avec vous. Alors, désormais, vous savez que, hein, Mikasa et Sukasa, nos portes, nos micros sont ouverts. Et puis Margot, on continuera peut-être à les former tranquillement. Hein, parce que s'ils vont trop vite, après, ils vont me dire hey, Jeannot, dégage, c'est moi maintenant. Là, hein. Vous ne sentez pas comme ça?
Je sens qu'ils sont bons en technique, moi.
J'ai commencé à mettre un petit peu de musique, là, parce qu'on va bientôt clôturer ces matijanales. Merci, Eliott. Merci,
merci,
Mathias. Et revenez quand vous voulez, mais vraiment quand vous voulez. Des chats. Aiko, c'est un morceau traditionnel de la Nouvelle-Orléans. C'est ce qui va nous permettre, d'ici quelques secondes, de fermer le rideau avec le petit postillon qui va bien, mais je vais nettoyer tout ça, de ces matijanales. Adi Chats, les amis, c'était un plaisir.